Bonjour à toutes et à tous. On est vraiment super content de pouvoir être ici à Cannes ce week-end, de pouvoir voir la mer, c'est sûr, mais vous rencontrer aussi. Voilà, donc c'est vraiment un grand plaisir. Alors merci pour ce temps de louange qu'on peut continuer maintenant en étant à l'écoute de la parole. Et c'est d'ailleurs ce que font en ce moment beaucoup de chrétiens de par le monde. Et c'est le thème, justement, de ces jours-ci avec la prière pour l'unité des chrétiens. Et justement, Jésus déjà priait en ce sens. Il disait « Je prie aussi pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. » Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis à toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Bon, si l'Église n'a malheureusement pas toujours été unie, et l'histoire nous le rappelle bien, comment est-ce qu'on peut être aujourd'hui unis alors qu'on est si différents, avec des façons de penser des fois aux antipodes? Voilà, comment? Comment dans des églises différentes, comment au sein d'une même église, on peut être unis? Et je vous propose de prendre ensemble le texte proposé par les églises en France, hein, pour ce dimanche de l'unité des chrétiens, la parabole du bon samaritain, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10 et à partir du verset 25. Et voici qu'un légiste se leva et lui dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'est-il écrit ? Comment lis-tu ? » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite arriva aussi en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Il le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant deux pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits? Le légiste répondit « C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Amen. Peut-être qu'on se demande quel est le rapport entre cette belle histoire de quelqu'un qui a fait une belle œuvre, mais dont on ne sait même pas son nom, et l'unité des chrétiens. L'unité que le Christ voudrait que l'on vive. Et il me semble que cette histoire donne quelques clés sur comment aujourd'hui on peut vivre l'unité de manière personnelle et de manière communautaire. Et si être chrétien, c'était aussi être prochain de l'autre? Tout d'abord, être chrétien, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ces personnages de cette histoire peuvent nous apporter, peuvent nous dire sur le fait d'être chrétien? Les disciples, qui sont-ils et que font-ils dans ce texte? Au premier abord, on ne les voit pas, mais ils sont bien là, ils sont présents. Il y a d'abord Jacques et Jean. On les retrouve au chapitre précédent, au chapitre 9, et au verset 51, où il est dit « Or, comme arrivait le temps où Jésus allait être enlevé du monde, il prit résolument la route de Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci, s'étant mis en route, entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on ne l'accueillit pas parce qu'il faisait route vers Jérusalem. » Voyant cela, les disciples, Jacques et Jean, dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu tombe du ciel et les consume ?» Mais lui, se retournant, les réprimanda, et ils firent route vers un autre village. Les disciples sont donc avec Jésus et font route vers la Samarie, cette région entre la Galilée au nord d'Israël et la Judée, qui est la région autour de Jérusalem. Et donc la Samarie se trouve entre ces deux régions. Mais c'est une région avec une identité assez hétéroclite concernant son origine. Il y avait un mélange de beaucoup de peuples, hein, des Juifs, des gens qui venaient de Syrie, de la Syrie actuelle. Mais c'était aussi une région avec une identité religieuse très homogène. C'était comme un judaïsme parallèle. Ils adoraient Dieu seulement, eux aussi. Et c'est entre autres une de ces raisons pour lesquelles au temps de Jésus, les Juifs et les Samaritains ne s'aimaient pas. Ils se considéraient l'un et l'autre comme impurs. Et ça explique que ces villageois samaritains ne voulaient pas accueillir Jésus. Et puis ça explique aussi que Jacques et Jean voulaient détruire un village. Pour ceux qui connaissent l'univers Marvel, on pourrait peut-être plutôt considérer Jacques et Jean comme des disciples de Thor, dieu des éclairs, ou comme Zeus, dieu de la foudre, plutôt que de Jésus. Mais on voit en fait ici toute la haine que pouvaient avoir les Juifs envers les Samaritains et vice-versa. Je ne sais pas si j'ose la comparaison, mais je vais le faire. Entre nous, protestants et catholiques ou orthodoxes, ou coptes, ou alors entre nous, libristes, baptistes, anglicans, pentecôtistes, réformés, et j'en passe, comment honnêtement considère-t-on ces christianismes parallèles? Et c'est peut-être la première question à se poser, si on veut être uni en tant que chrétien, oserait-on aller comme Jésus l'a fait chez nos Samaritains? Aller chez nos frères et sœurs des autres églises? C'est peut-être là une première piste. Être chrétien, c'est peut-être oser aller vers l'autre, celui que l'on considère peut-être illégitime, peut-être parallèle, ou au moins différent. Mais, après cette escapade, Jésus continue son chemin et on lit au premier verset du chapitre 10 qu'après cela, le Seigneur désigna 72 autres disciples et les envoya deux par deux devant lui dans toute ville ou localité où il devait lui-même aller. Et puis au verset 17, un peu plus loin, toujours au chapitre 10, ces 72 disciples revinrent dans la joie, disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Incroyable. Une réponse un peu extatique de Jésus qui suit, réponse à ses disciples, une réponse de louange. Et c'est là que commence notre texte du jour et cet échange entre Jésus et un légiste. Alors, il ne s'agit pas d'un médecin légiste, comme on a l'habitude, comme on connaît aujourd'hui, qui atteste des conditions de la mort d'une victime d'assassinat, souvent. Mais il s'agit bien d'un homme de loi. Il ne s'agit pas non plus d'un homme de loi, d'un avocat, à ce sens-là, ni d'un juriste, mais bien d'un responsable religieux. D'un homme qui connaît et qui étudie et enseigne la loi de Moïse. Est-ce le pasteur d'aujourd'hui ? Je laisse la comparaison. Mais cette discussion est intéressante. On dirait presque un journaliste qui cherche à avoir la réponse de la bouche de son interlocuteur tout en connaissant déjà la réponse. Il cherche à faire dire quelque chose à son interlocuteur. Et on pourrait dire ici que ce légiste a le mauvais rôle. Facilement, on pourrait dire qu'il est fourbe, qu'il veut piéger Jésus, le mettre à l'épreuve. Mais est-il vraiment plus mauvais que nous ? Et ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'être chrétien, c'est aussi parler au maître, parler à Jésus. Et je voudrais t'encourager ce matin. Peut-être que tu traverses une période de doute ou une période difficile où tu te sens simplement coupable, indigne, condamné. Mais pour Jésus, nul n'est trop bas pour être relevé. Personne n'est trop bas pour être relevé par le Christ. Alors n'hésite pas, parle au Maître, parle à Jésus, que tu le connaisses depuis multiples années ou que tu découvres juste la foi. Être chrétien, c'est aussi parler au Maître. Alors ce légiste pose une question à Jésus. Question simple. Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ? Mais Jésus, comme souvent, renverse la question et l'encourage à faire ce que lui-même dit, c'est-à-dire à aimer. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, et son prochain comme lui-même. Et Jésus est comme souvent, il est déroutant dans ses réponses. Il est déroutant ici parce qu'il rappelle la base à un professionnel. Je ne sais pas s'il y a des docteurs parmi nous, mais c'est comme si un patient essayait de dire au docteur de lui rappeler qu'un doliprane, c'est un antidouleur. Et pourtant, c'est ce que Jésus fait en rappelant la base à ce légiste, à ce professionnel. La base, c'est aussi vivre en espérance de la vie éternelle. C'était l'objet de la question. En espérance du retour du Christ. Et c'est aussi pour ça qu'on aime Dieu. Et quelque part, comme avec le Doliprane, Jésus ramène ce légiste à la base, au fondement, à l'essentiel. Et être chrétien, c'est aimer Dieu avec tout ce que nous sommes. Mais être chrétien, c'est aussi aimer son prochain. Et c'est ce qui nous amène à la deuxième partie de la prédication. Le prochain, ce prochain que le légiste cherche à identifier. Qui est-il ? Et pour répondre, Jésus va raconter une histoire avec un scénario, je trouve, redoutablement efficace. Peut-être que certains scénaristes pourraient s'en inspirer pour recevoir la Palme d'Or ici, à Cannes. En tout cas, ce scénario, il est court, il est concis, mais il est tellement précis. Il fait passer un message tellement percutant et à la portée de tous. Amen. Et cette, on pourrait dire presque qu'on a, on a vu une bande-annonce là. Mais le film que Jésus va raconter, va dérouler, c'est l'histoire du bon samaritain, ou celle, peut-être, d'un homme blessé. Un homme qui pense, qu'on pense, nous, être le prochain. Mais je vous fais déjà un teasing, ce n'est pas lui le prochain. C'est un homme qui a tellement été frappé qu'il semble même être mort. Il était parti de Jérusalem et allé vers Jéricho, environ 30 km de distance, mais c'était un chemin chaotique, avec environ 1000 mètres de dénivelé, hein. Jéricho est en dessous du niveau de la mer. Une belle rando, en somme. Mais c'était une route très propice aux attaques, aux guet-apens de bandits, une route dangereuse. Être prochain, est-ce que ce n'est pas aussi être blessé à son tour? On peut être blessé. Ça arrive. Et j'aimerais t'encourager à prendre cette parole pour toi si jamais tu es blessé aujourd'hui, blessé par la vie, par le travail, la famille, peut-être l'Église. Reçois cette parole de Dieu, sois rassuré par la suite de l'histoire, la fin. Parce que le milieu nous raconte celle d'un prêtre et d'un lévite qui sont passés à côté de cet homme blessé. Et peut-être qu'un prêtre et un lévite sont passés à côté de toi et t'ont évité. Mais être prochain, c'est aussi accepter d'être parfois dans la peau de celui qui est blessé, et être rassuré de l'amour du Christ. Mais c'était une route qui était aussi dangereuse pour ce prêtre et ce lévite. Si Jésus parle d'un prêtre et d'un lévite, c'est sûrement pour insister, ça fait partie du scénario, parce que tous les prêtres étaient des lévites, et c'est d'ailleurs peut-être ce qu'était lui-même ce légiste. Et ce prêtre et ce lévite empruntent la même route que l'homme blessé. Mais on ne sait pas dans quel sens ils l'ont prise. Et ça nous arrive sûrement souvent à la lecture de la parole, de la Bible, de jeter un regard peut-être, un jugement peut-être trop rapide sur les personnes, sur les personnages. Parce que ces deux responsables religieux, le fait d'aider cet homme blessé dans ces conditions, ça aurait été contraire à leur tradition religieuse. Et ça aurait eu des conséquences importantes, parce que soit le prêtre et le lévite rentraient chez eux de Jérusalem à Jéricho, et s'ils avaient touché ce mort, cet homme qui semblait mort, ils auraient été impurs, ils n'auraient pas pu voir tout de suite leur famille. Ou soit, ils allaient à Jérusalem rendre leur service annuel. Hein, les prêtres en Israël, à ce moment-là, rendaient un service annuel pendant quelques jours. Et s'il avait été impur, il n'aurait pas pu rendre ce service au temple. Cette une fois dans l'année. Une honte pour lui. Donc dans les deux cas, ça aurait été contraignant et même dangereux de s'arrêter sur, on rappelle, hein, les bandits qui rôdaient autour. Ils avaient peut-être une raison valable. Et nous, quelle raison valable avons-nous pour nous écarter de l'homme blessé? Un manque de temps. Un manque de temps pour donner à manger à celui qui a faim ou vêtir celui qui est nu ou presque, visiter celui qui est malade ou en prison, ou bien peut-être notre égoïsme, tout simplement, qui nous empêche de peut-être voir cette personne qui a besoin d'aide, ou j'aime bien l'exemple de cet inconnu qui attend au passage piéton, désespérément depuis 5 minutes qu'une voiture la laisse passer. Être prochain, est-ce que ce n'est pas aussi reconnaître que des fois nous passons à côté de ce qu'il aurait fallu faire? Nous passons à côté du bien que nous aurions pu faire à une personne en détresse. Mais ce qui est bien dans ce scénario, dans cette histoire, c'est qu'il y en a un qui n'est pas passé à côté. Et c'est un Samaritain. Jésus venait de traverser la Samarie avec ses disciples tout feu, tout flamme, hein, c'est le cas de le dire, et un légiste juif qui lui demande « Qui est mon prochain ?» Et Jésus utilise la question du légiste pour enseigner ses disciples qui étaient là, hein, qui étaient autour, sur l'amour qu'ils doivent porter envers les Samaritains. Et le pire, c'est que la situation est inversée. Jacques et Jean étaient en Samarie, le Samaritain, lui, est en Judée, entre Jérusalem et Jéricho. Il est donc en terre impure, en terrain religieux hostile. Mais le témoignage du Samaritain est aux antipodes de celui de Jacques et Jean. Il s'arrête sur le chemin. Il va aider cet homme blessé. Il va lui apporter du soin, des premiers secours, hein, d'urgence. Et puis, il va le transporter dans une auberge pour qu'il ait chaud et pour qu'il soit bien soigné. Il y a, bien sûr, le temps qu'il passe, qui lui coûte. Il y a aussi l'argent qu'il prend parce qu'il donne son huile et son vin, peut-être des bandages, ses vêtements, peut-être qu'il était devenu sale à cause du sang, les nuits d'hôtel, hein, à l'auberge. Mais finalement, ce Samaritain, c'est qui? Et Jésus est volontairement provocateur, puisque en réalité, c'est lui le bon Samaritain. C'est lui le seul capable de toujours faire le bien. C'est lui qui est allé non pas jusqu'à l'auberge, mais jusqu'à la croix pour nous sauver, et qu'ainsi on ne vive plus sous le poids permanent de la culpabilité, de l'accusation et des coups de bâton de l'adversaire, du Satan. Oui, c'est Jésus qui est venu en terre hostile pour sauver, pour aider et pour aimer. C'est Jésus. Et être prochain, c'est aussi ressembler à Jésus. C'est croire en lui et se mettre à sa suite, devenir disciple du Christ et démontrer l'amour qu'on a pour lui par l'amour qu'on a pour les autres et les uns envers les autres. Et il y a encore un dernier personnage dans cette histoire qui est aussi très important, c'est l'aubergiste. Cet aubergiste juif qui accueille un Samaritain et un homme blessé. Déjà deux raisons valables pour ne pas les accueillir. Mais non, lui les accueille et est même prêt à garder ce blessé mortel plusieurs jours au vu de son état. Et si l'aubergiste, c'était chacun d'entre nous? Et si l'auberge, c'était l'Église? Est-ce qu'on serait prêt à accueillir notre Samaritain, ce chrétien parallèle? Et est-ce qu'on est prêt à recueillir et prendre soin de cet homme ou de cette femme blessée? Être prochain, c'est aussi accepter les différences de l'autre. C'est aussi l'accueillir et c'est aussi en prendre soin. Et est-ce que on veut bien ensemble, individuellement, mais aussi communautairement, relever ce défi de l'hospitalité, de l'accueil de l'autre? Et pour conclure, j'aimerais relire avec vous cette histoire, ce scénario, et que cette parole vous fortifie et vous conduise dans votre foi. Lisons. Et voici qu'un légiste se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'est-il écrit ? Comment lis-tu ?» Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. Fais cela et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Et un lévite arriva de même en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits? Le légiste répondit, « C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Et si être chrétien, c'est oser aller vers l'autre, c'est parler au Maître, c'est aimer Dieu avec tout ce que nous sommes. Et si être prochain, c'est aimer l'autre, son prochain, c'est être celui qui parfois est blessé, c'est celui qui ne passe pas à côté du bien que nous aurions pu ou dû faire, mais qui des fois passe à côté. Si être prochain, c'est avoir de la compassion et de démontrer l'amour qu'on a pour Dieu par l'amour qu'on a envers les autres, si c'est accueillir l'autre malgré ses différences, alors est-ce que être chrétien, finalement, ce n'est pas être un prochain pour l'autre? Et c'est d'ailleurs comme ça que l'histoire se termine. Cette parole du Christ qui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » J'espère que ces quelques versets nous encouragent dans notre marche avec Dieu, à la suite du Christ, qu'on soit converti depuis des dizaines d'années, ou que l'on connaisse à peine la foi chrétienne, qu'on la découvre. Être chrétien, être prochain, c'est une réponse, je crois, à l'unité des chrétiens, une réponse qu'on peut vivre individuellement, chacun pour soi, quelque part, mais aussi de façon communautaire, en Église. Soyez bénis. Amen.